Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h43, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin, c'est une première, hein, Salim Ejnaini qui est cavalier non-voyant.
Bonjour Salim.
Bonjour Alba.
Vous publiez chez Fayard, L'impossible est un bon début. La préface est signée Guillaume Canet, l'acteur qui est aussi un excellent cavalier, raconte votre rencontre au jumping de la Baule il y a quelques années, je crois que c'était en 2013.
Tout à fait.
Alors au départ, Salim, il ne comprend pas bien pourquoi vous faites du cheval accompagné d'un autre cheval monté par une cavalière qui vous donne des instructions pour sauter les obstacles. Il apprend que vous êtes aveugle. Il écrit que vous lui dites que votre rêve serait de faire un parcours d'obstacles tout seul. Et là, Guillaume Canet ajoute « Je réalise que ce mec est un peu barge. » Salim, vous êtes un peu barge.
C'est sûrement le plus beau compliment qu'on puisse me faire, notamment de sa part à lui, qui est un très bon ami. Et on s'est vraiment retrouvés autour de notre passion et de notre fibre sportive. Alors un peu barge peut-être, où est la folie, où est le, je sais pas, la réflexion, je crois que c'est juste le fait de pousser la passion jusqu'à s'en donner les moyens vraiment jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a fait, notamment avec l'implication de Guillaume, quand il m'a suivi dans cette nouvelle façon de monter à cheval, puisqu'aujourd'hui je ne suis plus derrière un cavalier qui me guide, ouais, on en parlera après. Mais dans l'idée, on a vraiment mis les moyens et toutes les possibilités, que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de réflexion sportive et de recherche de performance, parce qu'au final, c'est ce qu'on a suivi comme fil directeur. C'est véritablement la recherche de la compétitivité.
Un vrai athlète, vous êtes.
Exactement,
Salim.
C'est ce qu'on a cherché. Ouais.
Alors, il faut quand même que vous nous racontiez par quoi vous êtes passé. Alors, vous êtes né à Bordeaux, vos parents sont d'origine marocaine, ils ont fait leurs études là-bas. Et à l'âge de 6 mois seulement, on détecte chez vous un cancer de la rétine, c'est ça ?
Exactement, qui se détecte par des signaux qui sont pas forcément très inquiétants à la base, hein, des yeux qui brillent, ce qu'on appelle une leucocorie. C'est des signes, ouais, qui sont pas forcément, qui ont pas alerté les premiers médecins en tout cas. Il a fallu une deuxième consultation pour que le médecin dise non, là c'est grave, il faut aller à l'hôpital, et il s'est avéré que j'ai eu ce qu'on appelle un rétinoblastome bilatéral, donc un cancer de la rétine des deux yeux. Qui a dû être traité très très lourdement, puisque c'est une maladie mortelle.
Tout bébé, on vous traite à la chimio, on vous enlève le globe oculaire pour le traiter, vous passez
à gauche,
à gauche, vous passez un examen du fond de l'œil tous les 3 mois sous anesthésie générale.
Oui, tout à fait.
Vous avez grandi dans les chambres d'hôpitaux.
Oui, on va dire que les hôpitaux ont été les premières maisons de ma vie. Oui. C'est en quelque sorte les premières chambres. D'ailleurs, il y a des photos où on voit, c'est des salles de jeu. On me dit que ma chambre était plus fournie que la salle de jeu de l'hôpital. C'est dans l'idée, ouais, ça a été. J'ai le sentiment d'être né deux fois. C'est-à-dire que au moment où je sors de l'hôpital, j'ai l'impression que c'est un peu une seconde naissance, quoi, une nouvelle venue au monde un peu.
Vous décrivez d'ailleurs une souffrance à tel point que vous dites à vos parents un jour, c'est trop de douleur là. Il y en a marre.
C'est pas seulement de la douleur, c'est quand on est enfant et qu'on puise dans toutes les... Moi, je décris souvent mes parents comme les généraux et moi comme le petit soldat au milieu du champ de bataille. À force, quand on n'en peut plus, on n'en peut plus, quoi. Et j'ai ce souvenir, ouais, d'en être arrivé à tel point de, je sais pas, de douleur, de fatigue, de dire là, faut trouver autre chose, quoi.
Salim, enfant et même adolescent, vous êtes malvoyant, vous n'êtes pas aveugle. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous voyez quoi ?
Alors, pour vous imaginer ça, il faudrait vous cacher un œil. Alors, ceux qui conduisent, ne le faites pas en ce moment. Vous cachez l'œil gauche et l'œil droit, vous imaginez, regardez comme dans le cercle du début du générique de 007, quand vous faites tirer dessus par l'espion. Là,
petit rond, là.
Voilà, donc imaginez tout un monde reconstitué dans un petit cercle comme celui-ci. J'y voyais un petit peu comme ça, mais en plus flou.
Comme dans une paille.
Comme dans un rouleau de sopalin, en quelque sorte.
Ouais.
Et en plus, donc c'était largement pas suffisant pour lire avec les yeux. Donc j'ai toujours appris en braille, évidemment, et à lire avec mes doigts, tout simplement.
Et donc, tout petit, vous faites connaissance avec les chevaux. Je crois que d'abord, c'est à Disney.
Ouais, tout à fait, assez vite, sur une balade à poney. Alors j'avais la chance, avec ce petit restant visuel, de découvrir le monde avec mes yeux, de voir malgré tout à quoi ressemblent les choses. J'étais très cinéphile, je le suis toujours autrement, et de pouvoir vraiment savoir à quoi ressemble le monde. Un cheval, j'ai eu le plaisir de savoir à quoi ressemblent les chevaux, par exemple.
Et la révélation, vous l'avez, je crois que c'est au collège, vous faites un stage d'initiation d'une journée.
Oui, tout à fait. C'est un institut spécialisé, en fait, qui nous permettait parfois d'avoir quelques activités sportives. Et là, en l'occurrence, il y avait toute une journée dans un centre équestre et autour de cette activité-là. Et j'ai eu effectivement cette révélation. Je faisais pas grand-chose dans ma vie à ce moment-là en extrascolaire. Et ma mère me demandait souvent ce que je voulais faire. Et en rentrant le soir, je lui dis, écoute, voilà, ce que je veux faire, vu que je peux faire de foot ou de basket ou quoi, je suis désolé, mais c'est de l'équitation. Et au lieu de me dire que c'est trop cher ou qu'on peut pas, au lieu de chercher une excuse pour m'expliquer que c'est impossible, elle marque un silence et elle me dit, ok, tu veux faire du cheval, tu vas faire du cheval, on va trouver comment faire.
C'est quelque chose, votre maman, quand même, hein. C'est quelqu'un, hein. C'est elle, votre guide.
C'est un sacré fil directeur. Je pense qu'on n'est rien sans un bon entourage, que ce soit ma mère, évidemment, qui est, comme je le dis dans le livre, c'est la première héroïne de ma vie, hein, clairement, ou même l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui, ou les équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Je veux dire, si on n'a personne autour de nous pour croire en ce qu'on fait, on a beau être le meilleur de l'équipe, si l'équipe est meilleure sans nous, on est absolument rien, quoi. Donc, c'est des choses, on peut être excellent, si on n'a pas les personnes pour y croire autour, on n'arrivera à rien.
Alors, Salim, à 16 ans, vous allez perdre définitivement la vue. Ouais. D'ailleurs, au début, vous le cachez.
Je l'ai caché parce que j'anticipais un peu la mauvaise nouvelle pour mon entourage, plus que pour moi. J'y voyais, comme je le décrivais.
Pour vous, c'était presque une bonne nouvelle de perdre définitivement la vue.
Ouais, j'y voyais très mal. Alors, le propos s'y prête aujourd'hui puisqu'on était à la radio, mais quand on regarde la télé sur un écran qui est mal réglé, à un moment donné, on en a marre, on éteint, puis on passe à la radio. Dans l'idée, moi, c'était un peu ça. C'est-à-dire que les signaux étaient trop compliqués à interpréter. C'était extrêmement fatigant à longueur de temps. Le jour où l'écran s'est éteint, je me suis dit, ok, au moins, les infos qui m'arrivent sont totalement fiables. Et j'ai réappris un petit peu à interpréter mon monde différemment.
Ouais. Et vous faites un saut énorme dans votre apprentissage de l'équitation à ce moment-là, sans doute. Vous dites que vous développez quoi? Plus d'ouïe, plus de sensations?
Oui, en fait, très, très rapidement, mais 80% de votre concentration sur le moment est prise par la vision. Alors imaginez-vous, quand ces 80% sont libérés d'un coup, la nature déteste le vide, on a 20% qui doivent subir une expansion complète jusqu'à remplir 80% de vide. Imaginez-vous comment les choses se répartissent. Moi, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Et l'ouïe, évidemment, prend énormément de place dans l'interprétation de mon environnement, de l'espace autour.
Alors justement, on parlait de la méthode d'avant, c'était un cavalier, un cheval devant qui vous guide.
Tout à fait.
À partir de ce moment-là, vous travaillez à la voix.
Alors, c'est plus récent que ça. On a mis en place ça depuis 2016, fin 2015, début 2016.
Et Guillaume Canet vous a aidé d'ailleurs.
Et Guillaume Canet y a cru à fond, ouais, complètement. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai des personnes autour sur le terrain, à côté de chaque obstacle, qui me servent de balise fixe et qui m'interpellent en fait en criant là plusieurs fois assez fort.
Saute
non, parce que ça je sais faire.
Ouais.
C'est de la technique. Il s'agit pas de m'apprendre à monter à cheval ou de me donner des infos techniques, mais seulement de la direction, tout simplement. Et il y a une personne au milieu, donc là en l'occurrence c'est Fanny, ma coach, qui se déplace et qui me donne encore une fois que des infos de direction droite, gauche, ligne pour aller tout droit. Plusieurs petites choses. Après, il s'agit encore une fois, monter à cheval, je sais le faire. On s'entraîne comme tout cavalier. Les seules différences sont dans la façon de prendre mes infos de direction, tout simplement.
Un niveau d'excellence vous avez atteint finalement. Salim, il a quand même raison, Guillaume Canet, de dire que vous êtes un peu barge, parce que non seulement vous êtes devenu une star du saut d'obstacle, vous êtes devenu pilote d'avion.
Élève pilote, ouais.
Élève pilote.
Élève pilote.
Donc vous pilotez.
Je pilote avec un instructeur à côté de moi, alors avec l'aide d'une association qui s'appelle les Miro Volants, qui sont basés en
Périphérique de Toulouse. Les
Miro Volants. Oui, c'est ça, tout à fait, tout simplement.
Vous jouez du piano, vous avez bien travaillé à l'école, vous êtes devenu kiné. Enfin, on dirait que votre handicap ne vous a pas empêché de faire quoi que ce soit.
Non, je crois que c'est sans mauvais jeu de mots, je crois que c'est un peu une vue de l'esprit de dire que le handicap est un mur. Le handicap a tendance à compliquer le fait d'essayer de nouvelles choses, oui, d'accord, ça a tendance à nous conforter dans une zone de confort. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que de sortir de sa zone de confort, ça a pour effet finalement d'en élargir la superficie. Donc c'est un peu ça que je fais dans ma vie. Je sors, j'essaie de me donner sans arrêt des coups de pied aux fesses pour sortir de cette zone de confort, pour étendre un petit peu la conquête de ce qui est faisable. Mmh. Et c'est un peu ce que j'entends par l'impossible est un bon début. Ce qu'on appelle le bon sens aurait tendance à dicter dicter un peu trop facilement d'ailleurs, que certaines choses sont infaisables, impossibles.
Mais vous dites que la peur des autres face au handicap, c'est un frein. C'est là qu'il faut travailler sur le handicap peut-être en priorité. C'est les autres peut-être.
Le handicap et la différence en globalité, ça nous renvoie à notre propre image. Je reviens sur la kinésithérapie. Mon premier jour, j'ai vu un patient extrêmement lourd en termes de tableau clinique. J'étais en neurologie. C'est un jeune qui se retrouve sur ma table, alors qu'il y a des difficultés en plus d'élocution, qui me regarde et qui rassemble ses forces pour me parler et qui me dit « Bah dis donc, si j'étais à ta place, je pense que je me tirerais une balle. » Et ça vous remet en perspective les choses. C'est-à-dire que ce bonhomme, qui aujourd'hui est un ami d'ailleurs, estimait dans une situation pire que la mienne. Pourquoi ? Parce qu'il était fan de foot et que lui, si on enlève les yeux pour plus voir les matchs, bah lui, ça lui retirerait toute sa, voilà, toutes ses occupations. Tout simplement, voilà, on est vraiment sur des choses où les gens vont projeter sur vous leurs propres peurs, leurs propres inquiétudes. La peur, c'est intéressant parce que c'est un signal. Mais dès lors qu'on se laisse dicter notre attitude et notre vie par la peur, bah c'est là qu'on a tout perdu et c'est là qu'on arrive à des raccourcis et à des choses absolument pas souhaitables.
Salim, une course bientôt est prévue ?
Enfin, alors, c'est pas des courses.
Un jumping, pardon.
Là, tout de suite, alors, j'ai mon cheval qui a 18 ans. Je suis en train de chercher un petit peu à lui trouver une relève pour la fin de l'année prochaine. Oui, j'ai des compétitions amateurs dans la région de la périphérie de Bordeaux, donc dans le sud-ouest. Ce qui est amusant sur ces compétitions, d'ailleurs, c'est que les gens sont habitués maintenant à entendre des gens crier sur la piste, à voir un mec qui ne voit pas sortir de piste. Voilà.
Salim Ajnaï, je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, L'impossible est un bon début, et c'est aux éditions Fayard. Merci.
Merci à vous.
Sortir de votre zone de confort, Salim Ajnaïni. Vous ne nous voyez pas, mais nous nous entendons et nous vous avons écouté avec beaucoup d'attention. On peut donc aussi désormais vous lire, comme vient de le rappeler Alba. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr et dans un instant, c'est Cyprien Cirny pour un surf de l'info gourmand ce matin.
RTL.